En France, après la décision de François Hollande de ne plus se présenter, climat de fin de règne et des postulants commencent à émerger. Et en Gambie, la victoire de l'opposition au présidentiel augure d'une nouvelle ère démocratique. Et en Australie, plus particulièrement en Nouvelle-Galles du Sud, l'emploi est défini comme le plus grand défi pour les personnes handicapées. Quelques heures seulement après avoir renoncé à briguer un second mandat à l'élection de 2017, François Hollande a atterri aux Émirats Arabes Unis pour une visite prévue de longue date, mais qui marque aussi la première étape d'une fin de règne. Description de cette atmosphère de fin de règne avec Anissa El Jabril pour RFI.
Imperturbable, comme toujours, François Hollande, enfin pas tout à fait. C'est vrai, il y a eu ce léger sourire, à peine la porte de l'avion ouverte, tapis rouge, quelques échanges protocolaires, les habitudes sont bien ancrées. Puis, traversée d'Abu Dhabi, ces 2x5 voies, ces très hauts immeubles futuristes plantés dans le désert, tous pavoisés en rouge, vert, noir et blanc, c'est aujourd'hui la fête nationale. François Hollande a assisté, dès son arrivée, à une longue cérémonie pyrotechnique pour les 45 ans du pays, sous un vaste hangar, au milieu des sables. La presse n'était pas conviée, les rares conseillers techniques qui ont fait le déplacement non plus. Il a fallu les images de la télévision nationale pour apercevoir à nouveau le visage, cette fois marqué du président, l'attention et la fatigue. Il règne ici dans la délégation une atmosphère étrange. L'équipe de l'Élysée est clairsemée, personne pour cacher ici sa déprime et sa tristesse.
Et avec l'annonce de François Hollande ne plus se présenter, la gauche française se cherche un nouveau candidat. Bien, des leaders se positionnent. Le favori, c'est l'actuel Premier ministre Manuel Valls, dont la candidature n'a pas été encore officiellement annoncé, et il faut signaler qu'il se trouve plutôt à droite de l'échiquier politique du PS. Emmanuel Valls pourrait avoir face à lui la première candidate de la France d'outre-mer, Christiane Taubira. Ce, comme l'explique Cécilia Cléry de RFI, les partisans de l'ancienne garde des Sceaux et ministre de la Justice ont déjà commencé à secouer la classe politique française pour soutenir leur candidate.
Plus de 75 000 signatures sur Internet, l'appel d'un humoriste à sa candidature pour la primaire. Depuis quelques semaines, Christiane Taubira enregistre les soutiens et pourtant, pour l'instant, la Guyanaise n'est officiellement candidate à rien. Ce qui ne signifie pas qu'elle a dit son dernier mot. Christiane Taubira l'a toujours martelé. Elle n'irait pas si François Hollande était candidat, mais depuis, la donne a changé. Alors pourquoi ne pas y aller? Sans lui apporter son soutien, François Hollande lui a déjà donné raison au moins sur un point, en regrettant la déchéance de nationalité. C'est cette polémique qui avait amené Christiane Taubira à claquer la porte du gouvernement. En outre, Christiane Taubira n'a jamais fait mystère de ses désaccords avec Manuel Valls. Elle pourrait donc être tentée de s'opposer à lui. Pour autant, tout reste à faire pour une personnalité certes adulée par la gauche de la gauche, mais honnie par une partie des électeurs. Les prétendants à la primaire de la gauche ont jusqu'au 15 décembre pour se déclarer.
Et en Gambie, Yahya Jammeh a reconnu sa défaite à l'élection présidentielle hier soir. Ce, dans une allocution télévisée. Le président sortant a félicité l'opposant Adama Barrow pour sa toute première déclaration du président élu. Celui-ci a salué une nouvelle Gambie. Bien, Guillaume Thibault de RFI revient sur cette journée historique au Crazy Day, comme l'appellent les Gambiens.
This crazy day, cette folle journée, comme l'appellent les Gambiens, s'est donc terminée par une dernière scène surréaliste. Après avoir enregistré son allocution, Yahya Jammeh a appelé Adama Barrow. Et ce coup de téléphone a aussi été diffusé ce soir à la télévision nationale. Le nouveau président félicite l'ancien. Merci pour tout le travail réalisé pour le pays durant 22 ans. Et si besoin, je viendrai vous consulter. Merci, répond Yahya Jammeh. C'est possible, mais je vais avant tout m'occuper de ma ferme à Kanilai, le nom de son village natal. Cette journée historique a débuté à la commission électorale lorsque le président Aliou Momar Ndiaye allait annoncer les résultats en fin de matinée, avant de prendre une communication sur un téléphone portable et d'annoncer, stupéfait, après avoir raccroché, le président va reconnaître sa défaite. C'est la première fois que cela arrive dans notre pays. C'est extraordinaire. Dans la foulée, à 13h, il annonce les résultats des Mabarou l'emporte avec 45% des suffrages. À partir de ce moment, la population sort massivement, célèbre autant la victoire du nouveau président que la chute de Yahya Jammeh, crie son bonheur d'être libre, de découvrir la démocratie, exige aussi que Yahya Jammeh soit jugé pour son règne marqué durant 22 ans par une répression massive. Et cette immense fête populaire se poursuit en ce moment, elle va sans doute durer toute la nuit. Dans chaque quartier, à chaque carrefour, le bitume se transforme en piste de danse. Dans un pays où ce matin, les Gambiens avaient peur de leurs voisins, la découverte de la démocratie se poursuit, la liberté est là et rien ne pourra l'arrêter.
Et le chef de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies déclare qu'un nettoyage ethnique est en cours au Soudan du Sud et tout est en place pour une répétition de ce qui s'est passé au Rwanda. Selon cette commission, plus d'un million de Soudanais du Sud ont fui le pays et près d'un demi-million de personnes sont déjà déplacées à l'intérieur du pays. Le porte-parole de cette commission de l'ONU décrit une situation qu'il dit être désespérée.
We've gone so far as to describe what's happening in South Sudan as ethnic cleansing. We don't use that word lightly. Displacement along tribal lines is being orchestrated through killing, rape, looting and burning of homes.
Et cette commission de l'ONU, il faut le signaler, a été mise sur pied au mois de mars dernier pour observer la situation des droits de l'homme et émettre des recommandations. Entre-temps, l'ONU a décidé de doubler et de porter à 1 milliard de dollars sa demande de fonds pour soutenir le nord du Nigeria l'année prochaine. L'ONU souhaite venir en aide à près de 7 millions de personnes touchées par l'insurrection islamiste menée par Boko Haram. Toujours selon l'ONU, près de 75 000 l'enfant nigérien risque de mourir de faim dans les tout prochains mois si on ne parvient pas à les secourir. John Ging, porte-parole de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, exhorte la communauté internationale à s'engager sans plus attendre.
That the money, the financial resources required to capacitate the international response is delivered immediately because it's needed now. And all delays will cost lives. Let's be clear about that. People will die and people will suffer needlessly.
Et toujours selon l'ONU, mais cette fois-ci en Syrie, bien en 6 jours seulement, plus de 31 000 personnes sont déplacées des quartiers est d'Alep depuis que les forces syriennes et leurs alliés russes ont intensifié leur offensive sur ce secteur. En conséquence, l'ONU a augmenté ses capacités dans les secteurs ouest de la ville pour venir en aide aux personnes déplacées. Et selon Stéphane Boulirac, porte-parole de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'Enfance, 60% des personnes qui fuient les combats sont des enfants.
The staff who met with children over the last few days noted that you could see the loss and horror in their eyes. An 8-year-old girl said that she was so sad because she left her school bag behind. She just had to rush out of her house. Another girl, 7 years old, was so excited to see the sight of bread that she screamed out, "This is real bread." So these are a few among the worlds of children.
Et on reste toujours dans la même région où les Irakiens qui rentrent chez eux, après avoir fui les militants de l'État islamique, doivent en fait faire face à la menace de mines antipersonnelles. Les champs de mines s'étendent sur des dizaines de kilomètres au sud-est de Bashika, plus ou moins le long de l'ancienne délimitation du territoire sous contrôle de l'État islamique. Dans un village du sud-est de Mossoul, on a érigé des piquets jaunes pour indiquer les secteurs déjà déminés. Salam Mohamed, porte-parole du groupe de conseil sur les mines, déclare que le travail de déminage se poursuit dans cette région.
This village is one of those villages was heavily mined. On our arrival, only 43 families returned back. So we started the clearance of mine roads, cleared close to those villages and their houses. After we achieved that, we moved to the highly contaminated areas and removing booby traps inside the houses.
Et en Australie cette fois-ci, mais en Nouvelle-Galles du Sud, eh bien, selon les dernières statistiques, le plus grand défi pour les personnes handicapées dans l'État, c'est le chômage et le sous-emploi. Et plus particulièrement, le défi qui frappe les handicapés, c'est le défi de trouver un emploi à temps plein. Selon John Adjaka, ministre ayant en charge les personnes handicapées en Nouvelle-Galles du Sud, son État à lui seul compte plus d'un million de personnes handicapées. Et le ministre Adjaka ajoute que ces personnes handicapées ont deux fois moins de chances de se faire embaucher que les autres couches de la population. Et le ministre ajoute que son gouvernement a pour objectif de créer des liens entre employeurs et personnes handicapées. S'adressant à la ABC, le ministre Adjaka se dit confiant de la progression et que la situation est sur la bonne voie.
When I brought in the New South Wales Disability Inclusion Act, that one of the priorities was to increase employment of people with disability. The government's undertaken quite an amount of work. The really good news is that over the last 3 months, there has been a change in that mindset, and we are seeing more people with disability being employed.
Et il faut rappeler que ce samedi est la journée internationale pour les personnes handicapées. Et un coup d'œil météo pour ce samedi, Perth 24 degrés, Adélaïde 30, Melbourne 30 degrés, Hobart 18, Canberra 29 degrés, Wollongong un maximum de 23 degrés, Sydney aura aussi un maximum de 23 degrés, Newcastle 24, Brisbane 31, Cairns 33 degrés et une belle journée à Darwin avec un maximum de 34 degrés. Et sur les marchés financiers, en dollars australiens, vous achetez aujourd'hui 74 centimes de dollars US et 70 centimes d'euros. Ceci clôture notre journal de ce samedi. Un rappel de titres avant de passer au magazine des sports. En France, après la décision de François Hollande de ne plus se présenter, climat de règne et de postulants commence à émerger. Et en Gambie, la victoire de l'opposition au présidentiel augure d'une nouvelle ère démocratique. Et en Nouvelle-Galles du Sud, l'emploi est défini comme le plus grand défi pour les personnes handicapées.